RCF.
Le deuxième numéro du magazine Les chemins d'école, réalisé en partenariat avec l'enseignement catholique, est aujourd'hui consacré à cette rentrée scolaire 2020, une rentrée inédite, voire hors norme. On a beaucoup parlé des effets néfastes de ces deux mois de confinement pendant lesquels les enfants ne sont pas retournés à l'école. Régression scolaire, augmentation des inégalités, isolement, décrochage scolaire. Et si, malgré tout cela, l'école à la maison avait été une expérience, une période moins délétère qu'on ne l'avait imaginée. Retour sur cette fin d'année scolaire et état des lieux dans nos écoles, un peu plus d'un mois après cette rentrée dont le ministre d'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a souhaité qu'elle soit la plus normale possible, avec nos deux invités en studio, Xavier de Beauchesne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint à la direction de l'enseignement catholique, chargé de la pédagogie, et une enseignante de lycée, Aline.
Bonjour.
Bonjour. Responsable d'un dispositif d'aide aux élèves qui ont décidé de reprendre l'école après avoir décroché. Et au téléphone, une élève et une maman d'élève qui nous donnent leur point de vue sur cette rentrée. Les élèves, Xavier et Aline, sont au cœur de notre échange aujourd'hui. Alors commençons, si vous le voulez bien, par donner la parole à Juliette, une élève du collège Saint-Maimbœuf de Montbéliard, dont je viens de recueillir à l'instant le témoignage au téléphone.
Bonjour, donc je suis au collège Saint-Maimbœuf, en troisième, à Montbéliard. Donc j'ai très bien vécu cette rentrée au collège Saint-Maimbœuf, plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver déjà les amis après des vacances, et surtout après le confinement, parce que tout le monde n'était pas revenu en juin.
Surtout le souci de retrouver tes camarades.
Oui, puis c'est vrai qu'avoir un professeur qui nous explique en face à face les notions, c'est plus agréable.
Pour toi, la période de confinement a été difficile? Ça s'est passé comment, l'école à la maison?
Ça s'est plutôt bien passé. J'aime bien pouvoir m'organiser moi-même et gérer mon emploi du temps en fonction des devoirs qui arrivaient au fur et à mesure. Je savais à peu près à quelle matière j'allais commencer quand, puis on pouvait vraiment faire en fonction de soi. Et on pouvait manger un peu quand on voulait, enfin modifier ses pauses par rapport au collège où les horaires sont structurés et donc, on n'a pas le choix de suivre le mouvement de groupe.
Ce que tu apprécies, donc, c'est l'autonomie que le confinement te donnait en restant à la maison et en étudiant à la maison.
Oui, c'est ça.
Oui,
et
bien
aussi,
sûr.
Retrouver la famille parce que d'habitude, on ne se voit pas autant que dans un confinement où on passe vraiment la journée ensemble.
Tes camarades le partagent ou bien tu es une exception? C'est un petit peu le sentiment général que tu exprimes là?
Je pense que pour une partie, ils pensent comme moi, mais après, je ne sais pas, je ne connais pas la vie de tout le monde.
On dit aussi que le confinement a développé la solidarité entre les élèves, peut-être aussi en famille. Est-ce que toi, tu as été témoin ou même actrice de gestes de solidarité?
Par exemple, on avait déjà créé un groupe de classe sur lequel chacun pouvait interagir. Donc, on pouvait aider les élèves, nos camarades qui étaient en difficulté sur une certaine matière ou qui avaient tout simplement besoin d'aide pendant le confinement. Ou sinon, on a pu aider. Moi, j'ai deux petits frères, un qui vient de rentrer en CP et un qui vient de rentrer en cinquième. Et donc, on pouvait aussi les aider sur certaines notions ou les motiver à travailler. C'était pas toujours facile.
Voilà le témoignage de Juliette, qui est une élève, vous avez pu le remarquer, très posée et très sereine. Bon, c'est vers vous que je me tourne en premier, Xavier, parce que votre place à l'enseignement catholique vous donne sans doute une vue d'ensemble sur les établissements. Est-ce que tous les élèves vont aussi bien que Juliette? Est-ce que les établissements... Quelles nouvelles des écoles pourriez-vous nous donner?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut différencier entre la maternelle, l'élémentaire, le collège et le lycée. On a des réactions très différentes selon les niveaux d'établissement. Je dirais qu'on a des élèves très très résilients et dans la très grande majorité. Malgré tout, les élèves sont heureux de revenir, se sont fait au masque lorsqu'ils ont eu à les porter et sont plutôt partant pour repartir sur une nouvelle année scolaire, sans oublier ce qui s'est passé, mais avec bonne volonté en général, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des différences parce que on a des élèves qui ont beaucoup de mal à revenir à l'école. Certains élèves ont beaucoup de mal à revenir à l'école. Alors, plusieurs raisons, quand on les connaît, parce que c'est pas toujours simple. Il y en a qui ne savent pas l'expliquer, qui n'y arrivent pas à revenir, mais qui ne savent pas l'expliquer. Mais là. Une des raisons, c'est un petit peu ce qu'expliquait notre élève témoin de départ, c'est que ils ont une grande autonomie dans leur chez eux, une autonomie de rythme, une autonomie d'organisation, une autonomie de relation, et ils se sont rendus compte qu'on pouvait apprendre autrement que ce qu'on faisait à l'école. Et pour certains, c'est très difficile. Il faut les aider à retrouver le sens de l'école, pour certains.
On est au cœur de notre problème, bien sûr, Aline. Hein. Vous confirmez les propos de Xavier, vous qui êtes en lycée professionnel et qui avez affaire à des élèves parfois un petit peu décrocheurs?
Je travaille effectivement en lycée professionnel. En lycée professionnel, on forme aussi de jeunes professionnels qui sont, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'on a pu penser par le passé, qui sont travailleurs, qui sont motivés et qui aiment ce qu'ils font. Donc nous, ce qu'on constate un petit peu, c'est que le confinement a été bien vécu, mais pas toujours, parce que les jeunes avaient besoin de leurs enseignants pour tout ce qui a pu être pratique professionnelle. Ils ont continué pour la majeure partie à travailler à la maison, mais globalement, ils étaient contents de revenir pour retrouver leurs camarades, mais aussi pour pouvoir travailler dans des conditions prévues à la base dans leur scolarité. Donc nous, on retrouve des élèves hein, qui, effectivement, comme dans tous les établissements de France, se sont mis un petit peu en retrait, ont du mal à revenir et décrochent. Mais je dirais que la majeure partie des élèves sont quand même contents de retrouver un rythme normal, normal quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, de prendre le chemin de l'école tous les matins pour apprendre.
Revenons au confinement. Si le confinement a été finalement une période assez positive, c'est parce que les enseignants se sont beaucoup mobilisés, ils ont fait preuve d'une grande inventivité, d'une grande générosité, bon, qu'on leur connaissait, c'est sûr, mais qui a été là vraiment très très évidente. Alors, est-ce que, Xavier, est-ce que de ce confinement, l'école sort, si ce n'est transformée, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas changée par le confinement et par ce qu'il a permis de mettre en place?
D'abord, je reviens sur ce que vous avez dit. En effet, les enseignants se sont vraiment mobilisés. Et j'allais dire, se sont mobilisés et régulièrement adaptés. C'est-à-dire que quand au départ on a dit c'est bon, on est prêt, on y va, personne n'était prêt, on y est allé quand même. Et les enseignants ont dû régulièrement s'interpeller, discuter entre eux, enfin, etc., s'organiser pour s'adapter. Et en effet, il y a eu un très 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 gros travail des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui l'école a changé? Alors, Je répondrai d'abord non, parce qu'il a fallu qu'on retrouve nos élèves, il fallait qu'on reprenne le rythme, il a fallu qu'on évalue, parce que qu'on sache un peu où on en était et où en étaient les élèves. Mais je suis sûr que oui, parce que on discute beaucoup de ce qui s'est passé, on discute beaucoup de ce qu'on a créé, inventé, l'utilisation du numérique, la relation individuelle, la différenciation qui a été faite parfois de prise en charge des enseignants dans des élèves d'une même classe. Et donc, je pense qu'au début, il a fallu reprendre un peu le rythme sans trop changer, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a déjà des évolutions. Donc l'école, je pense que l'école et les enseignants vont faire évoluer leurs pratiques, sans tout changer, parce que j'allais dire, on n'était pas si mauvais avant, donc sans tout changer, mais il y a peut-être des regards différents sur l'individualisation, sur l'autonomie des élèves, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, sur la différenciation.
Tout à fait. Donc on parle du rôle des enseignants, mais aussi il y a eu le rôle des parents.
Les chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique en Franche-Comté, animé par Claude Chipeau.
Donc Xavier vient de parler du rôle des enseignants. Aline, il y a également le rôle des parents. Vous êtes vous-même maman de... Quatre enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel a été l'investissement des parents pendant cette période ?
Alors, oui, c'est vrai que j'ai cette double casquette. L'investissement des parents, surtout dans les petites classes, j'ai envie de dire, puisque moi j'ai 4 enfants en maternelle et en primaire, en école primaire, a été important. Maintenant, ce que Xavier soulignait, c'est très vrai, c'est que moi j'ai vu mes enfants prendre de l'autonomie et dès les petites classes, être capables de travailler de manière autonome. Et pour cela, je dois reconnaître qu'on a été très très bien accompagnés par les enseignants, les enseignantes. Moi, j'avais que des enseignantes, mais on avait des feuilles de route par jour avec des programmes en fonction des niveaux de l'élève qui avait été constaté habituellement. Donc, je trouve qu'on a été très très bien épaulés pour cela. Et quand je vois de l'autre côté de la barrière mes collègues enseignants, il y a un gros travail également qui a été fait, en effet, comme vous le soulignez, un investissement complet. Parfois, on se retrouvait à appeler 20, 30, 40 personnes dans la journée, 40 élèves, pour prendre de leurs nouvelles, pour les accompagner individuellement quand on sentait des difficultés scolaires ou de motivation. Voilà, je pense que on a pu le répéter, mais c'était très vrai. Les enseignants ont été très partie prenante dans ce confinement, et c'est ce qui a permis, je pense, de sortir de là avec un certain nombre d'acquis chez l'élève qui aurait pu être compliqué.
Vous soulignez là l'importance de ne pas perdre le contact avec les élèves et avec les parents. Au téléphone, nous avons Caroline, maman de 2 enfants, l'un en 6e, l'autre en CM2, au Marteroy de Vesoul. Caroline, qui est également membre de l'APEL, l'Association des parents d'élèves. Merci Caroline de bien vouloir participer à cette émission sur l'école. Je vous propose tout d'abord de revenir sur les propos d'Aline que vous venez d'entendre. Est-ce que vous confirmez le propos d'Aline sur le rôle remarquable des enseignants pendant le confinement ?
Oui.
À la fois pour assurer la continuité de l'enseignement, mais également, elle le dit, pour maintenir le contact avec les élèves et leurs parents.
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que quand on a été confinés, c'était assez brusque, c'était du jour au lendemain. Et en tant que parents, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants à la maison? Comment ça va se passer? Et en tout cas, pour le Marteroy, mais visiblement c'est le cas pour beaucoup d'autres écoles, les enseignants, tout de suite, ont mis en place des moyens, alors par Internet, ça a tout de suite très bien fonctionné. Ils se sont investis énormément pour maintenir la continuité pédagogique, pour que les élèves aient un semblant de classe, c'est-à-dire qu'il y ait un rythme dans la journée avec des maths, du français, des matières annexes.
Et puis, à côté de cet enseignement, il y a aussi effectivement eu un lien toujours important avec les enseignants. Alors, ça pouvait effectivement passer par des appels téléphoniques du maître ou de la maîtresse ou par des visioconférences qui ont été mises en place. Alors, d'abord en petits groupes, parfois toute la classe. Ça permettait non seulement que l'enseignant ait des nouvelles de l'enfant, mais aussi que les enfants aient des nouvelles de leurs camarades de classe. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était attendu dans la semaine. Voilà, la visioconférence, on la loupait pas parce que on voyait les copains, même si c'était par écran interposé.
Les parents ont été obligés de prendre une place importante aussi dans l'instruction de leurs enfants. Aujourd'hui, avec le retour en classe, les parents ont-ils retrouvé leur place ancienne ou bien le confinement modifie-t-il leur relation à l'école ou avec les enseignants?
Alors, pour ma part, je dirais que le confinement m'a permis, en tant que maman, peut-être de me rendre compte aussi plus précisément des difficultés qui pouvaient être celles d'un enfant dans un apprentissage. Donc ça, je trouve que c'est positif parce que être au quotidien avec eux, on se rend compte que c'est pas simple et que ce qui vous semble évident ne l'est pas forcément pour eux.
Et les difficultés des enseignants aussi.
Tout à fait. La patience, tout ça. Après, je pense, depuis la rentrée, en tout cas, quand on voit les parents, que ce soit dans le cadre de l'appel ou comme ça à l'entrée ou à la sortie des classes, je pense que les parents ont des inquiétudes par rapport à ce qui aurait pu être manqué pendant cette période de confinement, par rapport à des retards dans le programme, ce qui fait qu'à mon avis, les parents sont beaucoup plus en demande, peut-être que les autres années, de devoir, en tout cas, le suivi semble plus important. C'est vrai qu'on en a pu le voir lors de la réunion de rentrée, sur la classe de primaire de mon fils, où les parents sont assez inquiets dès le début de l'année des programmes. Est-ce que les programmes seront terminés? Est-ce que les enfants ont accumulé du retard pendant le confinement? Est-ce qu'il faut en faire plus? Je pense que ça peut jouer. Le confinement et notre place pendant le confinement peut jouer sur le suivi scolaire qu'on a aujourd'hui par rapport à nos enfants.
Oui, j'imagine qu'il y a certaines classes charnières. Par exemple, les enfants qui étaient en CM2 l'an dernier, qui sont passés en 6e, on peut comprendre l'inquiétude des parents, craignant peut-être que les programmes n'aient pas été totalement vus et peut-être.
Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur les classes, comme vous dites, sur les classes charnières, on a effectivement cette inquiétude-là. Et on a aussi, ça c'est plus les enfants qui nous le disent et qui le ressentent, une impression de dépossession de leur fin d'année. Par exemple, sur un CM2, c'est vrai que la fin d'année, elle est importante. C'est la dernière année d'école primaire. Et on a le sentiment que les enfants, il leur manque quelque chose dans cette fin d'année. Ils se retrouvent en 6e sans avoir pu profiter de leur dernière année. Je pense que c'est pareil. On avait eu quelques retours comme ça aussi sur des enfants de 3e qui sont propulsés au lycée sans avoir profité en quelque sorte de leur dernière année. C'est vrai que ça, on le constate.
Oui, et je suppose que les enseignants eux-mêmes assurent aussi peut-être cette aide supplémentaire en ce début d'année, que ce soit en 6e ou dans les autres classes d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est certain. Les enfants, je crois qu'il y a des bilans qui ont été faits, donc ça va à mon avis permettre aux enseignants d'adapter le contenu de leur programme et de voir ce qui n'a pas été fait, ce qu'il faut refaire.
Oui, de mesurer les lacunes et d'y remédier, quoi.
Tout à fait.
Sans doute.
Bon, en tout cas, c'est vrai que quand on a vécu cette période de confinement, ça semblait impossible à réaliser, cette continuité pédagogique, ça semblait quand même très obscur. Et on a, en tout cas pour le Marteau-Roi, on leur a dit qu'ils avaient rendu possible ce qui semblait impossible.
Bah écoutez, c'est un beau compliment que vous leur faites, mais je crois aussi que ça n'a été possible que grâce à l'investissement des parents. Eh bien écoutez, je vous remercie, Caroline, pour ce témoignage qui nous éclaire, en tous les cas qui est très utile. Et là, nous entrons dans le cœur du sujet qui vous préoccupe, Aline, puisque vous êtes depuis plusieurs années, 4 ans au moins, responsable d'un dispositif d'aide aux élèves qui ont été décrocheurs et qui ont choisi de revenir à l'école, le dispositif coup de pouce. Et donc, je reviendrai un petit peu sur les causes aggravantes peut-être du confinement, mais est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous préciser un petit peu quel est le profil de l'élève décrocheur, quels sont les élèves à risque, en quelque sorte, nous dire aussi s'il y a des signes qui permettent peut-être de détecter pour prévenir le décrochage, et enfin nous expliquer en quoi le confinement a peut-être créé une situation de décrochage encore plus importante. Enfin, beaucoup de questions, 3 questions.
Je vais essayer
donc
de
le
dire
profil
répondre.
D'abord.
Alors le décrochage scolaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose de qui arrive de manière strict, enfin, je cherche mes mots. Le décrochage scolaire, c'est un long processus qui commence souvent dès les petites classes par l'incompréhension banalisée de l'élève, qui se traduit ensuite par l'absence de travail personnel de l'élève. On arrive ensuite à la fuite et à l'évitement, l'absentéisme, mais c'est déjà un processus de décrochage qui est largement entamé quand on en arrive là. Ensuite viennent le silence, la prostration, le dialogue est rompu avec l'élève, même parfois dans le cadre de sa famille, et puis le décrochage. Voilà. Donc le décrochage, c'est vraiment un processus qui est long. Et c'est pour ça que pour agir, il faut agir en amont, je dirais. Hein. Le décrochage, c'est avant tout de la prévention. On appelle ça chez nous la persévérance scolaire, c'est-à-dire accompagner l'élève au mieux dès le début, dès les premiers signes recensés. Voilà. Votre seconde question concernait, je crois, l'environnement et
les signaux d'alerte.
Les signaux d'alerte, qui rentrent dans ce processus que je viens de décrire. Souvent, un élève qui va décrocher, ça se passe au niveau de l'école, mais c'est tout un ensemble. Hein. C'est un environnement social, c'est des facteurs familiaux, c'est des problèmes de santé. L'élève peut avoir des mauvais rapports avec ses pairs ou avec ses enseignants. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent intervenir dans une situation de décrochage scolaire. Maintenant, vous l'avez dit, on travaille tout au long de ce processus. Et il y a également des solutions qui existent pour le raccrochage scolaire. Donc là, vous parlez de mon dispositif coup de pouce. Mon dispositif, je dis ça, mais on est toute une équipe, bien évidemment. Nous adressons à des jeunes qui veulent raccrocher. Ils ont décroché par le passé, quelques mois ou une année, 2 années, et là ils veulent revenir à l'école. Donc le travail est facilité puisque ça vient de l'élève. Il se rend compte, parfois il a travaillé 6 mois, il se rend compte que sans école on va pas bien loin, donc il décide de revenir. Et c'est ça qui est important de souligner dans un dispositif comme celui-là, c'est qu'on raccroche un élève qui est volontaire. Donc le travail n'est plus du tout le même que quand on fait de la prévention du décrochage scolaire.
Ça veut dire aussi que il ne faut jamais désespérer totalement non plus de ces élèves décrocheurs, qu'il y a toujours effectivement des solutions. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus en détail dans les moyens que vous mettez ? Quels objectifs, quelle motivation pour ces élèves ?
Alors, un élève qui a décroché, souvent, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de sens à l'école. Donc, le raccrochage scolaire, on pallie ce problème. On donne du sens à l'école. Donc, on prend des jeunes qui sont volontaires, qui viennent souvent eux-mêmes frapper à notre porte. On les aide à construire un projet dans lequel ils se retrouvent. Donc, ça passe par des stages, des insertions en milieu professionnel. Et quand l'élève a trouvé son projet, on construit avec lui le chemin d'accès pour arriver à ce projet final. Donc on l'accompagne et voilà, c'est ce qu'on fait vraiment. On donne du sens à sa scolarité pour qu'il puisse s'y investir et avoir envie de se lever le matin pour construire quelque chose en passant par l'école.
On revient à ce que Xavier vous disiez, donner du sens à l'école. Et c'est peut-être ce sens nouveau, peut-être, qu'on est en train de rechercher à travers l'autonomie qu'on développe ou les nouveaux moyens d'apprentissage. En tous les cas, on peut terminer, Xavier, je vous laisse le soin de la conclusion, sur une note positive.
Mais je dirais que l'école a toujours eu beaucoup de sens pour les enseignants qui la faisaient. Elle n'a pas toujours eu du sens pour certains élèves qui étaient obligés de venir. Et je crois que ce confinement a montré à beaucoup, beaucoup d'élèves l'intérêt de venir à l'école, parfois, comme vous l'avez dit au départ, pour rencontrer les amis ou avoir quelqu'un qui lui explique en face. Et je pense que c'est le travail, si l'école change aujourd'hui, elle change peut-être justement par rapport à ce sens qu'elle redonne aux élèves, le sens de l'école, le sens de revenir à l'école. C'est, je pense, un point important aujourd'hui que les enseignants travaillent, sur lequel ils discutent.
Eh bien, merci Xavier, merci Aline pour vos interventions et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, merci.
Merci.